C'est la deuxième partie de l'album de la semaine, c'est le duo Edgar, l'album Beyond the Wall, plus de 11 millions de streams, plus de 300 concerts dont les premières parties de Sting et Alice Cooper.
Outside, c'est le morceau qui résume le mieux l'album, presque comme un synopsis finalement. Il parle de la peur de se confronter au monde, du sentiment d'être différent et du besoin de s'isoler parfois. Mais aussi des dangers de cette solitude. Et au fond, bah c'est tout l'enjeu de l'album Beyond the Wall. Comment se protéger du monde sans se perdre soi-même.
Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir allumer la cheminée, s'il vous plaît?
Non, Mario Dill. Vous me faites chier.
Ouais, c'est ça. Toi aussi, affirme ton côté rock en écoutant British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les autres radios.
Bonjour, c'est Véronique Servin, micro de British Connection, pour parler des arts occuptibles auxquels je consacre un livre publié aux éditions Le Mot et le Reste. Les inrocuptibles, ou plus familièrement les inrocs, existent encore aujourd'hui comme un ensemble de médias consacrés aux actualités musicales et culturelles. De mon côté, je me suis intéressée à la première vie des inrocs, de janvier 84 à mars 2010. Ces dates correspondent à la trajectoire médiatique de celui qui les a inventées, pensées, façonnées et développées, Christian Feuvray. En janvier 84, Christian Feuvret est un étudiant d'une vingtaine d'années, passionné de musique et de médias. Il anime sur une radio privée une émission le dimanche tard avant minuit que son cousin Jean-Marie Durand a baptisé Les Inrecuptibles. Lorsqu'elle s'arrête à l'été 84, il travaille pour le même groupe de presse qui édite par ailleurs un hebdomadaire d'actualité régionale et y écrit ses premières chroniques de disques et également fait une interview du chanteur-crooner Chris Isaak. Fort de ses expériences, Christian Feuvret réutilise ses écrits pour lancer Les Inrecuptibles, mi-fanzine, mi-magazine classique, dont le premier numéro, avec Chris Isaak en couverture, paraît en mars 1986, il y a donc tout juste 40 ans. Après quatre premiers numéros publiés sous ce format, le titre de presse va se transformer et à l'automne 88, il devient bimestriel et se dote d'une forte identité visuelle, toute de sobriété, de noir et blanc et de typographie élégante, résumée par la maxime empruntée à Jacques Tati, « Trop de couleurs distrait le spectateur ». Elle habille les interviews et chroniques de disques du magazine. Cette grammaire devient leur marque de fabrique, ce qui les singularise au sein de l'offre de presse musicale de l'époque. Ils décrochent des entretiens malades avec des gens réputés intouchables ou sortis des radars de l'actualité musicale, mais aussi avec des groupes qui la font ou qui la feront prochainement. Les Smiths, juste avant leur séparation, Brian Wilson, reclus chez lui à Malibu, Leonard Cohen, Björk, Pulp, PJ Harvey et leur record à l'été 90. 27 pages d'interviews avec les 4 membres du Velvet Underground qui ne se sont plus retrouvés depuis le début des années 70. Exceptionnel. Tout en évoluant, les Inrock vont conserver cette colonne vertébrale lorsqu'ils passent mensuel de 92 à 94, puis hebdomadaire de mars 95 à mars 2010. En quelques années, ils révolutionnent ainsi la presse musicale. Mais ce n'est pas tout. À l'automne 88, le magazine est prolongé par un festival en salle, des compilations dont certaines vont faire date, comme celle intitulée « I'm your fan » constituée de reprises de Leonard Cohen, et par une émission de radio animée par l'inrecuptible des ondes Bernard Lenoir, d'abord sur Europe numéro 1, puis sur France Inter. Ainsi, on passe rapidement du petit magazine amateur tiré à quelques milliers d'exemplaires et distribué en métro ou scooter à un dispositif médiatique complexe dont les composantes dialoguent en permanence et dont le pilier reste le titre de presse qui a inventé dans son secteur un modèle éditorial et visuel qui n'existait pas jusqu'alors en France. Avec ça, les Inrock vont travailler à transformer le paysage musical de leur époque. On en parle après ce morceau des Smiths, parce que c'est dans les Inrock que les fans du groupe de Morrissey ont appris par sa bouche la séparation du groupe.
British Connection, just rock, just rock.
Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask.
On est toujours dans British Connection pour parler des In Rock. Alors que nous sommes en plein revival Britpop, il faut rappeler que Suede, Blur, Pulp ou Oasis ont tous débuté en France au Festival des Inrecuptibles. Ils ont fait connaître et légitimer de nombreux groupes devenus incontournables. Certains existent encore, comme Radiohead, d'autres évidemment ont eu une existence plus fugace. Je vous entends d'ici me rétorquer, oui mais justement les In Rock c'est trop ça. Tous ces groupes indés, anglais, depuis les Smiths, auxquels ils sont accrochés comme des berniques à leur rocher. Alors oui et non. Premièrement, j'aurais pu continuer la liste des découvertes des In Rock avec des noms anglophones. Dominique A, Jean-Louis Murat, Christophe Miossec, Philippe Catherine, pour ne mentionner qu'eux. Deuxièmement, je vous dirais aussi, pour avoir étudié tous les numéros publiés sur la période 86-2010, que le rap apparaît aux Inrecuptibles dès la fin des années 80, pour devenir une part importante des contenus éditoriaux, jusqu'à s'installer en couverture au moment du mensuel, en 92-94. Un des premiers hebdomadaires, mais d'ailleurs NTM et IAM en couverture, pour un entretien exclusif intitulé Dialogue Nord-Sud, orchestré par Laure Narlian, qui introduit ce genre musical dans les pages du magazine. À mon avis, c'est surtout important de comprendre l'organisation, la construction, le déploiement du paysage musical des In Rock. Qui est dans son panthéon? Pourquoi cette appétence pour l'indie pop rock anglophone? Comment d'autres groupes intègrent ce socle pommier? Quelles filiations s'établissent? Quel renouvellement aux ruptures s'opère? Au panthéon des Inrecuptibles, il n'y a pas beaucoup de formations musicales. La plus centrale est sans doute la plus spectrale, c'est le Velvet Underground. De là découle leur penchant pour des compagnons du groupe, Leonard Cohen par exemple, pour les fêlés en tout genre, Brian Wilson, Iggy Pop ou Elliott Smith, ou pour les Outsiders. Mais aussi pour le clair-obscur, pour les expérimentations, Bowie, New Order, dans une géographie qui unit New York, Londres et Manchester. De leur époque, ils agrègent à ce socle toutes celles et ceux qui se revendiquent ou se disent influencés par ce panthéon. Et puis, les In Rock ont grandi en même temps que ce qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire la circulation intense et mondiale des marchandises, des humains, des idées, des sons. La musique aux In Rock a souvent été une source d'intelligibilité du monde, dans un dialogue constant avec d'autres arts, le cinéma, la littérature, et avec le social et le politique. Un outil pour penser les transformations rapides des façons de faire, de diffuser, d'écouter, de consommer la musique enregistrée ou jouée live. Les In Rock sont un super observatoire des évolutions de nos pratiques culturelles et du paysage médiatique. La prise du pouvoir des images, la montée en puissance du numérique, les frottements entre la musique, la télévision, le cinéma, les jeux vidéo, le développement des festivals ou encore les transformations profondes des modalités de promotion des artistes. C'est pourquoi je vous propose d'écouter ce morceau de Radiohead qui s'intitule Idiotech, peut-être mieux, sur l'album Kid A, car c'est typiquement le type de composition qui invite à penser, par-delà les genres musicaux, à la suite de ce que propose ce groupe né dans l'indie rock. Thank you.
toujours sur British Connection, on parle encore des Inrecuptibles. En mars 1995, les années Mitterrand se terminent et une figure inattendue apparaît en une des Inroc, récemment devenue hebdomadaire. Ce n'est pas un candidat à la présidentielle qui pose devant l'objectif de Raymond Depardon, mais un outsider, comme les Inroc en sont friands. Il s'agit de Michel Rocard. Dans l'histoire du titre de presse, ce numéro annonce moins une rupture qu'une inflexion. Si la publication d'un très long entretien en pleine campagne présidentielle, comme les journalistes auraient pu le faire avec Divine Comedy, Quentin Tarantino ou David Lodge, est une évidence, celle de consacrer la couverture à Michel Rocard a été férocement débattue, puis mise au vote en comité de rédaction. On pourrait croire qu'il s'agit là d'une irruption du politique aux Inroc. Il n'en est rien, car cela fait longtemps que le magazine parle des discriminations envers les Africains-Américains aux États-Unis avec Spike Lee, des héritages de l'esclavage avec Toni Morrison, de la ruralité dans la Diagonale du vide avec Jean-Louis Murat. Avec l'hebdomadaire, les rencontres entre culture et actualité politique et sociale vont se multiplier. Noël Gallagher et Ken Loach tirent le bilan des années Thatcher dans le nord de l'Angleterre. Les stars du rail posent leur regard sur la décennie noire algérienne. En couverture, les affiches du Parrain de Coppola ou de Volte-face de John Woo sont détournées pour annoncer un dossier sur l'Italie de Berlusconi et les revirements de la gauche plurielle sur les politiques d'immigration. Là encore, les Inrecuptibles creusent un sillon qui leur est propre, dans lequel les artistes qui le souhaitent peuvent s'engager sans obligation. Devenus adultes, les journalistes de l'hebdo prennent à bras le corps la question du politique au sens large. Après celle de l'hiver 1995, viennent d'autres mobilisations sociales, en soutien aux sans-papiers, contre le CPE, animées par une gauche en recomposition, avec des structures comme ATTAC ou d'autres associations qu'on réunit souvent dans le mouvement dit des 100, chômeurs, donc sans emploi, sans papiers, sans logement. C'est aussi le temps des nouvelles guerres, Algérie, Kosovo, terrorisme, Irak, de l'altermondialisme, des questionnements sur le genre ou sur les lois mémorielles, sur la place des jeunes et des banlieues dans nos sociétés. On peut lire tout ceci dans les Inroc avec la même méthode qu'auparavant. Entretiens et photos mettent toujours les interviewés au centre. C'est donc une histoire de notre époque, de ses difficultés, de ses indignations, de ses interrogations, de ses mobilisations qui s'écrit avec eux. Ces années sont aussi celles de l'événementiel, festival de cinéma, de bande dessinée ou de musique. Celui des Inroc délaisse certaines années la Cigale pour l'Olympia ou un Zénith rempli par Franz Ferdinand. Les rentrées cinéma, télé, musique, électro, rock, rap, musique du monde et littérature sont des balises de la saison culturelle rythmée par les Inrecuptibles. Les numéros de fin d'année écrits par les lectrices et les lecteurs se prolongent avec le concours CQFD, sorte de Star Academy inventée par le magazine, duquel sortiront des découvertes comme Florent Marchais, Cocoon ou Joseph Danvers. Autant d'éléments de ce qui forge la marque culturelle. La musique est toujours là, plus variée, plus engagée, offerte sur des compilations anniversaires ou saisonnières ou au festival. Mais l'époque est avide de culture et omnivore, il faut la nourrir et en rendre compte. Sur ce chemin, les Inroc ont perdu une partie de leur public premier qui, Inroc nostalgique, réifie le bimestriel et le mensuel. Mais ils se sont aussi trouvés de nouveaux adeptes et ont engendré une descendance, par exemple avec Magic, fait bouger quelques lignes et représentations de leur temps. À l'instar des musiques diffusées par Bernard Lenoir, l'histoire des Inrecuptibles est celle d'une expérience éditoriale, médiatique, culturelle, pas comme les autres. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de dire dans ce livre.
British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock.
Fini mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les ondes aimées perdues quelque part dans le temps,
mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui n'est pas sans tête? Peut-être finissons donc par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne-t-on le contre mon dos? Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos coups. Parfois, c'est ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
Troisième partie et fin de l'album de la semaine, il s'appelle Edgar, l'album Beyond the Wall. Attention, tournée qui passera par Laon, Péronne, Lille, Lyon, Paris, Amiens et bien d'autres.
Trax, c'est vraiment un morceau qui parle du lâcher prise, de ces moments où tout devient trop lourd, où on accumule un peu trop, où on finit par craquer. En fait, ça raconte qu'il faut arrêter de se, re-